Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïque FM.
Sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission mensuelle de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives d'hier mais aussi d'aujourd'hui. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio le compositeur et musicologue Bruno Giner, qui a publié il y a peu de temps aux éditions Bleu Nuit un ouvrage consacré à la vie et à l'œuvre de Kurt Weill, un compositeur juif allemand né en 1900 à Dessau et mort en 1950 à New York. Bruno Giner, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je suis ravi que vous soyez là ce soir. Ce n'est pas la première fois, vous avez l'expérience, puisque vous étiez déjà venu en janvier 2012, cela ne nous rajeunit pas, mais vous nous aviez présenté votre remarquable ouvrage, paru aux éditions Berg, ouvrage intitulé « Survivre et mourir en musique dans les camps nazis ». Et puis en 2015, vous avez sorti le livre « Entartete Musik, musique interdite sous le Troisième Reich », paru aux éditions Bleu Nuit et co-signé avec Élise Petit, que j'ai eu le plaisir d'ailleurs de recevoir à cette occasion. Et puis, comme vous avez sans doute un peu peur de vous ennuyer, alors vous avez enchaîné en 2016, ne perdons pas de temps, toujours aux éditions Bleu Nuit, un livre dédié à Erik Satie, et en septembre 2018, un livre dont nous allons parler ce soir, intitulé tout simplement « Kurt Weill ». Alors Kurt Weill, le nom de ce compositeur n'est pas forcément connu de tout le monde, mais je vais vous faire entendre un extrait musical et je suis sûr que vous allez vous dire « Ah mais oui, bien sûr !»
Und der Heimisch, der hat Zähne, und die trägt im Gesicht. Und McGee's, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand, und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki-Messer nennt. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, war auf und war geschändet. Mäcki, welches war dein Preis?
Nous venons d'entendre la complainte de Mäcki Messer, extraite de l'opéra de 4 sous, en allemand dit Drei Groschenoper, de Kurt Weill. Et c'est donc un extrait d'un CD qui s'intitule justement du même nom, l'opéra de 4 sous. C'est l'édition originale de 1930 avec Lotte Lenya, qui était la femme de Kurt Weill et dont nous reparlerons avec vous ce soir, Bruno Giner. Alors, Bruno Giner, nous connaissons tous ou presque cette mélodie qui vous rentre dans la tête et qui a vraiment du mal à sortir. Et bien d'autres encore que nous allons entendre dans le courant de cette émission, mais nous connaissons beaucoup moins l'homme qui les a composés. Alors, je voulais vous poser une question, déjà en ce qui vous concerne, qu'est-ce qui vous a amené, qui vous a poussé à écrire ce livre sur Kurt Weill?
Principalement deux choses. D'abord, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur la République Weimar et l'exil des compositeurs et des musiciens. Et donc, Kurt Weill est une figure, un peu, je qualifierais... un des enfants terribles de la République de Weimar, puisqu'il a fait tout son début de carrière jusqu'en 1933, qui est sa première date, son premier exil en France. Sous la République de Weimar, en ayant des succès assez considérables et en participant quand même à toute cette rénovation, à cette révolution de la musique et notamment de l'opéra, qu'il a mené principalement avec trois grands dramaturges de l'époque en Allemagne, qui sont George Kaiser, déjà en premier lieu, avant avant sa rencontre avec Bertolt Brecht, et entre Kaiser et Brecht, il a travaillé avec Yvon Goll sur deux projets d'opéra ou de musique de scène. Donc ça, c'est la première raison. J'avais déjà pas mal travaillé dessus par rapport à tout ce concept sur la musique dégénérée et ces compositeurs-là. Et donc, j'ai eu envie d'approfondir effectivement ce compositeur particulièrement, puisqu'il est... Il est intéressant, il fait une vraie charnière entre les choses et il mélange la musique savante et la musique populaire. C'est ça qui est peut-être assez remarquable chez lui.
Oui, comme on va l'entendre, c'est moi ce qui m'a vraiment intéressé, à la fois dans sa musique et dans votre livre où j'ai beaucoup appris. 160 pages que je trouve vraiment fort bien faites, avec des illustrations, des focus sur certaines œuvres de Kurt Weill, à la fin de l'ouvrage, une biographie, une discographie. Enfin voilà, c'est un ouvrage à la fois complet et agréable à lire. Hein, et j'en redonnerai évidemment le titre tout au long de cette émission. Mais on apprend beaucoup de choses. Et ça m'a donné envie d'entendre Kurt Weill. Alors, comme vous savez, le principe de cette émission, c'est que non seulement on apprend, mais on entend. C'est aussi comme ça qu'on apprend, d'ailleurs. On va faire une seconde pause musicale avec une œuvre de jeunesse de Kurt Weill. Kurt Weill, en effet, est issu d'une famille de juifs religieux. Son père était chantre à la synagogue de Dessau. Et donc, parmi ses œuvres de jeunesse, il a écrit quelques œuvres liées au judaïsme, notamment donc un cycle de chants, les Ophras Lieder, qui date de 1916, ça veut dire qu'il a 16 ans. Donc un cycle pour voix et piano sur des poèmes de Yehuda Halevi, un rabbin philosophe, médecin et poète, né dans la péninsule ibérique vers 1075 et auteur de près de 800 poèmes. Alors on va écouter un de ses poèmes, Denkst du können des Flugs der Nacht. Alors il écrivait pas en allemand Yehuda Halevi, mais évidemment Kurt Weill l'a traduit. On l'écoute de suite. Denkst du können der Flux der Nacht, un extrait donc des Ophraliders de Kurt Weill, une œuvre de jeunesse. Le jeune compositeur en herbe a à peine 16 ans, marqué par, c'est pas encore son langage, c'est pas celui qu'on connaît. C'est, oui. Qu'est-ce qu'on sent comme influence là, Bruno Giner?
Les Ophraliders, c'est une œuvre importante qu'on a retrouvée d'ailleurs plus tard, parce que beaucoup d'œuvres de cette période-là ont été perdues tout simplement. Mmh. Là, c'était le quatrième. Et il est effectivement en période de formation, puisque Kurt Weill a commencé la musique très tôt avec son père, qui était donc chantre, effectivement, à la synagogue. Il a reçu une grosse éducation religieuse. Et il a travaillé la musique très, très, très vite. Et il était très doué et boulimique de travail. Et donc, il a composé très, très tôt, dès même 13 ans. Voilà. Et les Ophraliders, c'est sa première œuvre vraiment... comment dire, fondatrice, qui d'ailleurs dit lui-même, où c'est là il a su qu'il serait compositeur, en fait. Mm. Bon, effectivement, les Ophraliders ont des influences romantiques de l'époque, enfin post-romantiques. Mm. Celui-là peut faire penser à Schumann par endroits. Mm. Et ils sont tous comme ça, mais c'est de très belles factures, c'est très bien fait, c'est très bien écrit. et c'est quand même un gamin de 16 ans.
Ouais, ça, c'est incroyable. Ouais.
Voilà, qui commence déjà à maîtriser, en tout cas, tout le langage avant lui.
Mmh. Oui, on pense qu'il a commencé les premières œuvres connues, je pense, remontent, il avait 12 ans, quelque chose comme ça. Et pour l'anecdote, donc il est issu d'une longue lignée de rabbins, hein, donc vraiment d'une famille extrêmement religieuse. Et pour l'anecdote, sa mère a déclaré, non sans ironie, après son décès, elle a déclaré « Pour notre plus grand plaisir, Kurt Weill fut compositeur ». Nous aurions pu avoir un rabbin de plus ou encore un médecin, mais ce ne fut pas le cas.
Oui, c'est contrairement à son frère qui était médecin, effectivement.
Voilà, donc on a le choix comme dans toutes les familles juives. Alors lequel sera le médecin, lequel sera l'avocat? Mais là, c'était un compositeur.
C'est ça, et en plus, familialement, ses parents ne se sont pas du tout opposés à sa carrière de musicien. Bon, il l'a envoyé à l'université quand même, après son Abitur, l'équivalent du baccalauréat en Allemagne. Mais il n'a pas continué tellement, et il est rentré tout de suite à la Hochschule de Berlin, avant ses études avec Busoni à l'Académie prussienne des arts, et chaque fois avec la double approbation, donc celle de son père évidemment, et de son premier professeur qui était Albert Bing, qui était chef d'orchestre à Dessau, qui a été son premier maître à partir du moment où il a commencé vraiment à travailler sérieusement la composition.
Alors avant d'arriver chez Busoni, il y a quand même une période de 2-3 ans, parce qu'on est à la sortie de la guerre, là, en fait, en 1918. Déjà, à la Musikhochschule de Berlin, il étudie, donc, si je vous ai bien lu, l'orgue, l'histoire de la musique, le contrepoint, la direction, la composition, enfin, une formation musicale extrêmement complète, mais dans un cadre un peu académique. Je crois qu'il ne s'entend pas très, très bien avec son premier maître de composition, qui était Engelbert Humperdinck, je crois.
Humperdinck, oui, qui était son deuxième, puisque son premier maître, c'est Albert Bing, avec qui il a développé Kurt Weill. Il a besoin de... Comment dire, il n'a pas juste besoin d'un enseignement, il a besoin d'une vraie rencontre humaine et avec quelqu'un. Et les rapports qu'il avait avec Albert Bing étaient ça. C'est-à-dire, c'était son maître, mais c'était aussi son confident, un ami, bon, bien que plus âgé que lui, évidemment. Et Kurt Weill a besoin de cette relation, toujours, dans ses collaborations, d'ailleurs futures, on voit bien ce besoin de dépasser simplement un rapport de professeur à élève, en l'occurrence, ou plus tard de compositeur à metteur en scène ou à librettiste, etc. Et avec Humperdinck, qui ne trouve pas ça, parce que Humperdinck, c'est une... Excusez-moi l'expression, c'est une vieille barbe, voilà, très académique, effectivement, à ce moment-là, à la Hochschule. Puisque toute la rénovation des institutions de Weimar arrive à peu près à ce moment-là, c'est-à-dire... On a la constitution qui est votée en 1919 et à partir de 1921, Kestenberg, qui est le ministre en gros de la culture, on va dire ça comme ça pour aller vite, rénove complètement les institutions musicales et nomme des gens comme Busoni justement à l'Académie prussienne des arts, qui d'ailleurs c'est Schoenberg qui lui succédera après sa mort en 1924. Mais avec Humperdinck, effectivement, Kurt Weill trouve pas cette espèce d'amitié. Alors bon, il passe un an à la Hochschule, il fait le job. Ouais. C'est un très bon étudiant, mais il s'ennuie. Et il la quitte effectivement assez rapidement pour des raisons familiales, parce qu'il a besoin d'argent pour aider ses parents, etc. Et donc là, il va commencer à travailler, en fait. Mmh. Et donc, quitter Berlin pour y revenir après et intégrer l'enseignement de Busoni.
Alors c'est une période, comme vous le dites, très, très mouvementée et en même temps d'une très grande liberté. Enfin, ça n'a pas duré forcément très longtemps, cette période de liberté de la République de Weimar. Malheureusement, à peu près de 1920 à 1929, ça, jusqu'à la crise.
Ouais, hein, jusqu'à la crise et 1933.
Mais il est marqué par l'affrontement d'ailleurs de deux idéologies qui sont diamétralement opposées. Le communisme, on va dire comme ça, propagé par la révolution soviétique de 1917 et le nationalisme. Hitler lancera son parti d'ailleurs dès 1920, attaché aux valeurs traditionnelles, refusant tout changement. Et justement, ce changement, il est marqué par cette République de Weimar, puisque c'est au niveau artistique, là on est dans le domaine musical, mais dans le domaine pictural, dans le domaine de la littérature, c'est une explosion absolument incroyable. Alors, Kurt Weill, lui, il se situe plutôt, on va dire, politiquement à gauche, et il va rencontrer, donc, vous avez cité les noms de deux grands dramaturges qui avec qui il partage des idées, qui sont, vous l'avez dit, Georg Kaiser et Bertolt Brecht. Et dans votre livre, vous parlez un petit peu de ce que ces rencontres avec ces deux grands dramaturges vont engendrer comme œuvre chez Kurt Weill. Est-ce que vous pourriez nous détailler un peu les œuvres qu'il va produire en collaboration avec donc, Georg Kaiser? Et puis après, on parlera de Bertolt Brecht, bien sûr. Mais déjà, Georg Kaiser.
Alors, avec... Kaiser, c'est une rencontre fondamentale et fondatrice pour Weill, en fait. C'est grâce à cette rencontre qu'il va commencer à écrire ses premiers opéras. Et puisque jusqu'à présent, il a écrit certaines œuvres. Il a écrit un premier opéra vers 16-17 ans, mais qui a été perdu, un non-acte, etc. Donc, il est avide de ça. Il commence à avoir quelques petits succès à Berlin à ce moment-là, et dans les années 20, 21, 22, 23, il commence à s'affirmer comme compositeur, fait partie du groupe Novembre, etc., et il rencontre Kaiser, et là, ça va être le fondement de toute son œuvre future en réalité. Donc avec Kaiser, la première production, c'est Der Protagonist, qui est un opéra qui, au départ, devait être une grande pantomime sans texte, et puis en travaillant dessus, ils se sont rendus compte qu'il fallait mettre quand même... du texte et puis du chant, etc. Ensuite, il a un opéra bouffe. Ça, c'était en 1926, le protagoniste. Un an plus tard, il continue avec un opéra bouffe qui s'appelle Le Tsar se laisse photographier, qui est un opéra en un acte, qui est assez drôle, qui raconte rapidement le tsar de Russie veut se faire photographier. Il va dans un studio parisien de photographie, mais en fait, au lieu que ça soit le tsar qui arrive, c'est un groupuscule d'anarchistes qui veulent assassiner le tsar, etc. Puis il y a tout un certain nombre de péripéties, puis ça se termine bien finalement. Et le dernier, la dernière collaboration avec Georg Kaiser, c'est le Lac d'Argent, Silbersee, alors qui est une œuvre vraiment d'importance et qui signe sa dernière production en Allemagne, parce que ça date de 1933, et il part en exil juste après cette production, et Kaiser verra ses livres brûlés dans les autodafés du 10 mai, et sera interdit de publication et de tout.
Comme malheureusement beaucoup d'autres artistes
comme
à l'époque.
Énormément d'artistes à l'époque.
Alors, revenons juste en 1926, à l'époque donc, où il débute sa collaboration donc, avec Kaiser. Et c'est par l'intermédiaire de ce dernier qu'il va rencontrer sa femme, l'actrice et chanteuse Lotte Lenya. Leur relation sera pour le moins orageuse et passionnelle. Ils vont divorcer, ils vont se remarier. Mais on peut dire que Lotte Lenya va être la muse, en quelque sorte, de Kurt Weill, qui lui dira ses plus beaux airs, comme par exemple l'air que nous allons entendre, le Alabama Song, de l'opéra Grandeur et Décadence de la ville de Mahagoni. On l'entend de suite.
Whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
Un extrait donc du Alabama Songs de Kurt Weill, chanté par Lotte Lenya, la femme de Kurt Weill. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on perçoit tout de suite quand même le style de Kurt Weill, influencé par le jazz notamment. Ça va justement le désigner aux yeux des nazis comme le prototype même du compositeur de musique dégénérée, parce que juif, parce que faisant de la musique de, entre guillemets, nègre, évidemment. Et il est tout ce que les nazis et tout ce que Hitler détestent. Et donc, en 1933, il est contraint, comme vous l'avez dit, de prendre la route de l'exil pour se réfugier à Paris, où il va retrouver sa femme. Et vous consacrez dans votre livre Kurt Weill, donc paru aux éditions Bleu Nuit, tout un chapitre entier à cet exil parisien. Alors, pourriez-vous nous dire en quelques mots, parce que comme on n'a pas non plus, on pourrait passer des jours, mais quelques mots sur cette période parisienne et les œuvres qui y sont liées.
Alors, c'est entre le 21 et le 23 mars 1933, Kurt Weill prend effectivement sa voiture avec les Neher, qui étaient un couple d'amis, qui était le scénographe, en fait, avec qui travaillait avec Brecht. Part pour Paris, effectivement, et déboule dans un hôtel rue Jacob. Mais bon, Kurt Weill à Paris, c'est pas un inconnu non plus. Il a un carnet d'adresses assez bien fourni. Il connaît le vicomte de Noailles, la princesse de Polignac. Enfin, il est quand même dans le milieu musical mondain de Paris, puisqu'il a déjà eu des concerts à Paris. Il a eu beaucoup de succès. Le film de Pabst sur le Dreyfusse Oper, sur l'opéra de Katsu, est sorti en 1930 sur les écrans parisiens. Gros succès. D'ailleurs, il écrit à ce moment-là à son éditeur en disant « Tout le monde dans la rue siffle l'air de Mackie-Messer ».
Qu'on a entendu au début de cette émission.
C'est ça, il était très content. Donc, il vient avec assez d'enthousiasme en France. Après, son exil est relatif. C'est-à-dire qu'évidemment, il est sur les listes noires de Goebbels, sans aucun doute. Il est menacé clairement. Et en même temps, il dit lui-même ça, que de toute façon, avant... Comment il dit ? Il dit... en substance, qu'avant qu'on le considère comme un musicien dégénéré, il voulait lui-même se régénérer en partant, parce qu'à Berlin, il commençait à avoir fait un peu le tour. Il avait beaucoup de succès, il commençait à rentrer dans une période où il avait besoin de changement, de se nourrir différemment. Comment dire, il était
presque un peu forme d'humour juif, quelque
un
part.
Un peu blasé.
Oui,
bien sûr. Ouais. Il était...
D'accord.
Comment dire, en même temps assez content de pouvoir partir, et il attendait pas mal de la France puisqu'il avait eu quand même quelques succès là-bas. Malheureusement, ça s'est pas très bien passé en réalité, et donc il a fait tout de suite les sept péchés capitaux avec Brecht, avec qui il était quand même en froid, plus ou moins fâché, suite à une histoire compliquée de droit sur l'opéra de Katsu antérieur, procès, etc. Et Marie Galante ensuite. Qu'il a fait sur un texte de Jacques Deval, et la deuxième symphonie, qui est une commande de la princesse de Polignac, principalement, et puis quelques chansons, une collaboration avec Cocteau, avec qui il avait de très bons rapports. Et jusqu'à cet incident, enfin, au début, ce qui marque ce moment parisien, c'est cet incident du 26 novembre 1933, sur extrait de justement qui sont donnés à Paris par Madeleine Gray ou Fauchemit qui est dans la salle, donc compositeur français, futur membre du groupe Collaboration, crie Vive Hitler, etc., ce qui fait un scandale absolu, avec cette idée que finalement l'antisémitisme en France à ce moment-là était paradoxalement presque plus fort qu'en Allemagne. On est en 1935. Et que il y avait ces Allemands qui arrivaient, c'était à la fois la haine du juif et du boche.
Ouais. Il a senti le vent mauvais arriver.
Oui,
quoi.
Et donc ce qui a donné lieu à un tas de débats dans la presse, les pour, les contre, évidemment, avec l'Action française qui était très forte à l'époque, et donc un grand article de Lucien Rebatté, qui est aussi un futur membre du groupe Collaboration, Et donc, Kurt Weill rentre dans une période de dépression à ce moment-là.
Alors justement, il rentre dans une période de dépression, donc il va prendre le bateau pour l'Amérique. Et on va entendre justement un extrait de Marie Galante, qui est tout à fait adapté, qui s'appelle « J'attends un navire ».
Beautiful girl, bella francese, $2, tu seras content. Chez moi,
Un extrait de la chanson « J'attends un navire », extrait donc de l'œuvre de Kurt Weill, Marie Galante, Kurt Weill d'ailleurs je prononce mal, Marie Galante est interprétée ici par Ute Lampert et notamment Jeff Cohen, le pianiste. Ces chansons vont faire d'ailleurs les beaux jours des cabarets de la rive gauche de Paris puisqu'ils vont être repris, réinterprétés, enregistrés, et c'est ce qui a fait connaître d'ailleurs Kurt Weill, qui est tout à fait dans l'air de son temps. Alors donc, comme vous l'avez dit, Bruno Giner, il est sur le bateau, il est en route vers l'Amérique. Et puis, donc, arrivé à New York, il va rapidement être sollicité par Broadway pour écrire une pièce musicale, Johnny Johnson, qui va remporter un succès mitigé, si j'ai bien lu votre livre. Mm-hmm. Et le 7 janvier 1937 est donnée la première de The Eternal Road, comment on peut traduire ça, la route éternelle, en quelque sorte. Le chemin éternel. Mm-hmm. Une œuvre chère au cœur de Kurt Weill. Et pourriez-vous, donc, Bruno Giner, nous parler de la genèse de cette œuvre qui est intimement liée à l'histoire du peuple juif?
Alors, c'est le moment où, effectivement, donc, Kurt Weill sort de cette dépression française, mesure l'antisémitisme, parce que français, en Allemagne, bon, il était stigmatisé pour d'autres, enfin, pour ça, mais aussi pour d'autres raisons. Et en France, c'est uniquement pour ça, en fait. Et donc, il renoue à ce moment-là un peu avec son éducation religieuse et sa judaïté, en fait, qu'il avait mise de côté tout simplement depuis son adolescence. Et le projet, c'est un projet sur un texte de Franz Werfel, qui est aussi plus tard en exil, et d'un producteur qui s'appelle Meir Weisgall, qui est plutôt sioniste, on va dire, et qui veut effectivement monter un grand spectacle sur le destin du peuple juif. Donc Weisgall dit composer une pièce biblico-morale en vue d'exprimer l'origine spirituelle, la première histoire mythique et le destin éternel de l'homme juif. Voilà, c'est le projet de Weisgall.
Tout un programme.
C'est ça. Et donc Weill voit à cette l'occasion de partir aux États-Unis pour réaliser ce projet. Sauf que ce qui se passe, c'est que le projet, pour faute de financement, capote, enfin prend du retard, etc. Et donc cette chose qui devait être créée en 36 le sera qu'un an plus tard, en 1937. Mais bon, ça va fonctionner. Et ça va être créé effectivement au Manhattan Opera House pour 153 représentations, ce qui est pas si mal.
Une œuvre assez monumentale.
C'est une œuvre assez monumentale en quatre grandes parties sur chaque qui reprend la Genèse, qui reprend toute la mythologie.
La mythologie de l'histoire juive en fait. Alors on va entendre justement une scène, la scène 20 de l'acte 2, qui met en musique l'histoire de Moïse et du don des tables de la loi au Mont Sinaï.
Thank you.
Un extrait de la scène 20 de l'acte 2 de The Eternal Road de Kurt Weill, une fresque biblique, c'est presque une superproduction hollywoodienne, ça aurait pu être la musique du film Les Dix Commandements, là on est... D'ailleurs, il a essayé de travailler pour Hollywood, il me semble.
Oui, alors en fait, comment dire, ce que Kurt Weill désirait le plus, c'était rendre la musique accessible au plus de monde possible, ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratisation culturelle. Mais déjà à l'époque, et en Allemagne, il a fait ça, notamment avec des opéras scolaires, des choses comme ça. Et aux États-Unis, il a fait ça aussi. Et donc, la radio, il a fait aussi en Allemagne, puisqu'il était à Rundfunk de Berlin. Donc, la radio, les spectacles, l'opéra, le théâtre musical, etc. Tout ça, pour lui, c'était démocratiser l'accès et désembourgeoiser, en gros, la musique. Et aux États-Unis, il retrouve ça, évidemment, avec donc, soit des grands spectacles comme ça, soit le cinéma. Alors, c'était plus compliqué, le cinéma. Il a eu des mauvaises expériences à Hollywood, parce qu'il y a tout le système hollywoodien des musiques de films avec le music director, etc., qui censure des choses. Bon, c'était compliqué. Ça s'est venu un peu plus tard avec la reprise justement de comédies musicales, dont One Touch Venus notamment, ou Lady in the Dark, qui ont été repris après au cinéma et qui ont eu des succès. Et voilà, et c'est vrai qu'il a utilisé un peu tous les moyens pour,
et oui, tout à fait.
Pour démocratiser tout ça.
Et son champ, j'allais dire son lieu de prédilection, ça reste quand même Broadway peut-être.
Ouais.
Et il va acquérir une notoriété certaine donc dans le domaine des musiques de scène en 1943, l'année même de sa naturalisation, parce qu'il devient américain à cette année 43. Il compose, comme vous l'avez dit, pour Broadway la comédie musicale One Touch of Venus, qui va rester quand même 18 mois à l'affiche, c'est pas rien. Et cette comédie musicale contient plusieurs airs, dont certains vont devenir de véritables tubes, des standards, à l'instar de la chanson Speak Low, dont les paroles sont dues à Ogden Nash. Et cette chanson va être reprise par la suite par de très nombreux artistes pour devenir donc des véritables standards, notamment de jazz. Alors, c'est intéressant parce que vous nous avez apporté, Bruno Giner, deux versions de cette chanson Speak Low. Une dans la version originale de Kurt Weill, chantée par Lotelenia, donc la femme de Kurt Weill qui l'a suivie aux États-Unis et qui s'est remariée d'ailleurs à ce moment-là, et l'autre complètement différente qui provient d'un projet qui s'appelle le projet Kurt Weill.
Kurt Weill Project.
Alors, c'est quoi ce, en quelques
c'est
mots
un, donc, c'est un quatuor de jazz, le quatuor de François Chesnel avec Johan Loustalot à la trompette et Eric Surmaignan à la contrebasse et Ariel Manan à la batterie. Et l'idée, c'était de reprendre justement ce qui sont devenus des standards de Kurt Weill et de les revisiter complètement aujourd'hui, alors en gardant effectivement le thème, mais en réharmonisant, en modifiant les choses. Et je trouve ça très intéressant parce que Kurt Weill doit beaucoup sa postérité à justement quelques titres en réalité, donc la balade de Mackie Messer qu'on a entendue en début d'émission, évidemment, mais aussi Speak Low, aussi My Ship, ou September Song, ou Alabama Song qu'on a entendu aussi dans, voilà. Et tout ça sont devenus petit à petit au fil du temps des standards qui ont été repris par un certain nombre de jazzman. Et ce qui m'a intéressé dans le Kurt Weill Project, c'est que l'enregistrement, la date de 2007. Donc c'est presque, il y a à peine 10 ans. Enfin, il y a 10 ans. Et voilà, et c'est intéressant comment de jeunes musiciens, aujourd'hui, se réapproprie voilà, ces choses-là.
Comme quoi l'œuvre de Kurt Weill est intemporelle.
Absolument.
Alors, on va l'entendre en juxtaposant donc la version originale chantée par Lotelenia, un extrait, et un extrait donc de cette version jazz du Kurt Weill Project.
Speak low when you speak low. Our summer day withers away too soon, too soon. Speak low when you speak low. Our moment is swift, like ships adrift. We're swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon, I feel. Go, that tomorrow is near, tomorrow is here, and always too soon. Time is old and love so brief. Love is pure gold and time a thief. We're late, darling, we're late. The curtain descends, everything ends.
Là-haut, original de Kurt Weill, dans deux versions en fait, la version historique chantée par Lotte Elenia, donc extrait de One Touch of Venus, et puis la version jazzy complètement revisitée par le Kurt Weill Project. Le nom du quatuor, s'il vous plaît.
François Chenel Quartet.
Voilà, donc si vous voulez les retrouver, vous pouvez retrouver leur disque. Alors, revenons à une période juste un petit peu antérieure, en 1943. Donc Kurt Weill compose We Will Never Die, Nous ne mourrons jamais, un mémorial pour ténor solo, narrateur et orchestre, qui est dédié aux 2 millions de juifs morts en Europe. Malheureusement, il était encore en dessous du nombre.
Oui, c'est plutôt en 43.
En 43, je pense qu'il y en avait déjà plus, et à la fin de la guerre, il y en avait plus. Et en mars 1946, à la demande du cantor David Putterman, qui est officier à la synagogue de Park Avenue à New York, il compose un kiddush qui est dédié à son père. Le kiddush, c'est une bénédiction, évidemment, du vin. Enfin, en 1947, à l'occasion d'un voyage en Palestine où ses parents se sont installés, dans le nord, en fait, à Naharia, il rencontre Raïm Weizmann, le futur premier ministre de l'État d'Israël, qui lui demande de réaliser une orchestration de la Tikva, l'hymne sioniste qui deviendra des années plus tard celui de l'État d'Israël. Et cet arrangement orchestral de la Tikva est donné pour la première fois à New York le 25 novembre 1947. Alors, je vous propose d'écouter, on n'a malheureusement pas le temps d'écouter toutes ces œuvres, mais je vous propose d'écouter le début du Kiddush de Kurt Weill, écrit pour baryton solo, chœur mixte et orchestre.
Oh, yeah. l'anno si corrolla ma se varresci.
Le début du Kiddush de Kurt Weill, interprété ici par le Shizuka Muno Choirs, une œuvre évidemment très différente dans l'œuvre de Kurt Weill, son rapprochement par rapport au judaïsme, mais parallèlement, il continue bien sûr ses musiques de scène et il va en composer des sublimes toujours plus fortes. Et sa dernière œuvre de Kurt Weill s'intitule Lost in the Stars, perdu dans les étoiles, tout un symbole, parce que Kurt Weill va malheureusement mourir peu de temps après, trois ans après. Il est mort très jeune, à 50 ans, on va en parler. Est-ce que vous pourriez, Bruno Giner, nous retracer tout simplement le contexte de composition de cette œuvre, son accueil par le public et la presse? Voilà.
Alors, Lost in the Stars, c'est un projet qu'il fait avec Maxwell Anderson, qui est un des dramaturges avec qui il travaille beaucoup aux États-Unis. Et en fait, il rencontre Patton, l'écrivain sud-africain, Alan Patton, qui est en train de publier son roman que tout le monde connaît, Pleure au pays bien-aimé, et qui parle effectivement de la ségrégation raciale, de l'apartheid en Afrique du Sud. Donc Kurt Weill, a toujours été très, très engagé sur ces problématiques, donc l'antisémitisme, l'antiracisme, enfin, sur le racisme, etc. Et donc là, effectivement, après cette période de retour à sa judaïté, il traite le racisme sur l'apartheid, etc. Donc c'est la ségrégation, etc., qui aux États-Unis à ce moment quand même est assez importante. Mm-hmm. Et voilà.
En quelques mots, l'histoire, mais vraiment en une phrase, si vous le...
Une phrase, c'est l'histoire d'un avocat antiraciste,
oui,
blanc, qui est tué accidentellement par le fils d'un pasteur noir.
Voilà, et la fin...
Et après, il y a toute l'histoire de la réconciliation, le pardon, etc.
D'accord, c'est l'histoire du pardon, en fait, et l'histoire de la tolérance et de l'acceptation.
Absolument.
De l'autre tel qu'il est. Écoutez, on va écouter un extrait de cette comédie musicale, Lost in the Stars, interprétée ici par la mythique actrice et chanteuse Judy Garland.
Made the sea and the land. He held all the stars in the palm of his hand, and they ran through his fingers like grains of sand. And one little star fell alone. Then the Lord God hunted through the wide night air for the little dark star on the wind down there. And he stated and promised he'd take special care so it wouldn't get lost. Now a man don't mind if the stars grow dim and the clouds blow over and darken him, so long as the Lord God's watching over him, keeping track how it all.
La sublime voix de Judy Garland dans Lost in the Stars, la dernière œuvre de Kurt Weill. Et Bruno Giner, vous me disiez hors antenne, à propos de cette œuvre, vous vouliez préciser...
Oui, je voulais préciser juste que globalement, Kurt Weill, quand il était aux États-Unis, donc il a pris la nationalité américaine en 1943, on l'a dit, et se considérait à ce moment-là comme un compositeur américain. Il n'est jamais revenu en Europe, même après-guerre, et malgré beaucoup de sollicitations, pour reconstruire une Allemagne qui avait besoin de voilà,
de talent.
Et il a toujours refusé, il n'est jamais revenu. Bon, entre-temps, il est décédé. Et en fait, c'est Lotte Lenya qui, après sa mort, a contribué à développer son œuvre, qui était plus jouée du tout en Allemagne en réalité, et peu en Europe. À telle enseigne qu'on connaît finalement de Kurt Weill un peu Mahagoni, on connaît l'opéra de Katsu, bon, on connaît quelque chose comme ça, mais Lost in the Tar, par exemple, la création en France date de 2012.
Ah oui, c'est tout récent.
C'est ça. Et des productions de Lady in the Dark, pareil. Donc c'est quelque chose qui reste encore vraiment à redécouvrir.
Alors on va le redécouvrir avec vous, Bruno Giner. Votre livre était absolument passionnant. C'est vrai que ça nous ouvre un horizon sur ce compositeur. Donc je vous encourage vivement à vous procurer le livre de Bruno Giner qui s'intitule tout simplement Kurt Weill. C'est paru aux éditions Bleu Nuit. C'est une mine. Et à côté de ça, bah, vous aurez envie d'entendre du Kurt Weill. Et c'est, je crois, l'objectif voulu. Alors on va finir avec un petit montage. On a commencé avec la complainte de Mackie Messer, l'air le plus connu peut-être du Kurt Weill. Et on va voir qu'il a été repris par de nombreux interprètes. On l'écoute de suite.
Dig, man, there goes Mac the Knife. The shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight.
Oh, the shark bites with his teeth, dear. Scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's McHeath, dear? So there's not a trace of red. Oh, Sunday.
Mackie Messer et sa complainte avec la sublime voix, vous avez reconnu bien sûr au départ Armstrong, maintenant c'est Ella Fitzgerald, ils sont très nombreux, Frank Sinatra l'a chanté, Robbie Williams et bien d'autres encore, un véritable chef-d'œuvre de Kurt Weill, et c'est sur cette musique que notre émission va se terminer. Donc Bruno Giner, merci infiniment pour votre présence dans ce studio.
Merci à vous.
C'était un moment superbe, donc je recommande vraiment encore une fois aux auditeurs de se procurer votre livre aux éditions Bleu Nuit, Kurt Weill. Vous retrouverez toutes les références de ce livre sur le site de l'Institut européen des musiques juives, www.iemj.org. Vous pourrez également y réécouter cette émission ainsi que toutes les précédentes. Cette émission qui sera bien sûr disponible également dans la rubrique podcast sur judaïquefm.com. Au micro, Hervé Roten, Serge à la technique. L'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée en musique bien sûr.
Could that be our boy, Mac the Knife, from a tugboat down by the river, don't you know? There's a cement bag just dropping on down. That cement's there, it's there for the way, dear. If I will get you 10 old Mackies back in town.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.
Le sugar. my sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey, now I'm wild over honey child. Honey child's got me feeling funny, I'm gushlagging muddy in the noggin. Oh, I'm the sugar for my sugar, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me.
Vous êtes bien sur Judaïque FM, la radio du judaïsme français.